Carnet de campagne, bonjour. Nouvelle journée à Véronèse, terre natale d'un cinéaste documentariste, auteur d'un diptyque tourné avec les habitants de son village de Goutrins en 1947. Farbik, le premier volet, et Big Far, le second volet, 28 ans plus tard. Georges Rouquier, ce travail de documentaire fiction qui a inspiré les plus grands cinéastes américains, fait l'objet d'un musée à Goutrins, l'espace Georges Rouquier, qui consacre une majeure partie de ses installations à l'œuvre de l'enfant du pays, et une autre partie des expositions temporaires consacrées au lien entre cinéma et ruralité, espace georgesrouquier.fr pour l'adresse, pas mal pour une commune de 500 habitants. Invité du jour, Sophie Pilot pour le projet Oreille en balade, soit une nouvelle offre touristique du territoire du Ségala par des parcours sonores réalisés avec les habitants. Tiens, on pense à nouveau à Rouquier. Et puis Mathilde Cheuillet, qui est animatrice de l'Association pour la santé de la terre et du vivant à Bozoul.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Sophie Pilot, bonjour.
Bonjour.
Sophie, avec votre belle voix radio, c'est vrai. Hein. Et c'est quand même fou, après la radio, après une vie de nombreuses années à France Culture, bah, la radio vous poursuit et vous poursuivez la radio, je ne sais pas comment il faut le dire.
Ah, les passions, on ne les abandonne pas. Je ne pensais pas qu'elle allait pouvoir revenir comme ça en Aveyron de manière aussi évidente, mais voilà. Ça a été la passion de la radio et du témoignage et des ambiances sonores, du partage.
Ouais. Au Centre culturel Aveyron, Ségala à Viaur, où vous êtes responsable du développement d'un projet qui nous intéresse bien, qui s'appelle Oreille en balade. Alors, c'est un projet audio qui est parti d'abord de la création d'une radio temporaire qui avait le très beau nom, je ne sais pas si elle l'a encore, puisqu'elle était temporaire, de Radio sans fréquence.
Elle continue à exister et elle est assez complémentaire d'ailleurs du projet Oreille en balade. Puisqu'en fait, cette radio, on forme les habitants à l'utilisation d'un enregistreur. Ils vont enregistrer, après je les accompagne sur le montage et la réalisation. Et c'est justement à partir de là, on s'est dit, mais il y a un problème, on n'est pas pérenne sur le territoire. On existe une fois par an et on a dans notre communauté de communes un petit village qui s'appelle Prévinquière, qui a un patrimoine extraordinaire. Et on s'est dit, on va faire un parcours sonore et ça a démarré là.
Alors le parcours sonore, on va dire... on en trouve dans de nombreux endroits. La particularité du vôtre, c'est qu'il suit finalement la transmission radio que vous faites avec de nombreux publics, puisque là, c'est réalisé avec les habitants.
Voilà, ce qui nous intéresse, c'est de collecter le patrimoine oral et donc de faire parler les anciens sur comment ça se passait autrefois autour du four à pain, autour du puits, dans l'église, et d'avoir cette émotion, ce partage de la vie quotidienne d'autrefois. Mais on ne vit pas dans des musées, hein, en Aveyron. Il y a une vie, il y a des gens qui vivent, il y a Internet. Donc il y a aussi tout ça qui sont dans les documentaires sonores. Mmh. C'est les gens du village.
Et ensuite, vous les installez dans des bornes sonores ?
Alors non, la signalétique en fait permet de savoir que là, vous avez quelque chose à écouter. Il y a trois moyens pour écouter. Soit vous avez un smartphone et vous flashez le QR code qui va être présent sur la signalétique. Soit vous êtes un touriste prévoyant et vous avez téléchargé les sons avant de venir dans tel ou tel village. Soit vous avez envie tout simplement d'un audioguide basique. Et là, vous vous rendez, alors suivant les lieux, après Vinquière, c'est au restaurant du village, il y en a d'autres, ça sera à la boulangerie, il y en a d'autres, ça sera plus classiquement à l'office de tourisme, mais vous allez chercher donc l'audioguide classique. Donc il y a trois façons en fait de les écouter.
Mmh. Et vous faites intervenir également les enfants.
Oui, ça a été vraiment, c'est une belle aventure. On a un tourisme très familial, donc très rapidement, on s'est dit, mais il y a un problème, on a un produit qui est juste pour les adultes, et que vont faire les enfants? Donc on est parti avec le même principe de dire, il faut que ce soit les enfants du village qui construisent pour les enfants des villes, ou les touristes, ou les visiteurs d'un jour. Donc on a un partenariat avec l'Éducation nationale. Je fais une formation des enseignants pendant 2 à 3 jours, puis après je les accompagne, on leur donne un enregistreur, ils font un travail avec leurs élèves, ils nous fournissent la matière et après on retravaille pour en faire un petit document de 3-4 minutes.
Mmh. Alors pour la professionnelle de Radio France que vous avez été, vous travaillez aussi avec un professionnel opérateur son qui a travaillé à France Culture.
Oui, puis c'est vrai que c'est pas n'importe lequel, c'est Michel Créis, et c'est un bonheur de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a été au service de la radio de création et qui comprend complètement le documentaire sonore. Je travaille aussi avec Cécile Deboeuf, qui est une documentariste qui a été formée au Créadoc, donc ça donne aussi un autre regard, mais toujours des professionnels. Pour nous, c'était extrêmement important qu'on ait une qualité sonore, vraiment de qualité.
Mmh. Alors concrètement, ces parcours sonores vont être installés et utilisables à partir de la mi-juillet l'année prochaine. Et une dernière chose, Sophie, avec quels moyens vous mettez en place ces parcours ?
Alors là, ça a été vraiment formidable, c'est-à-dire que toutes les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État et l'Europe nous ont suivis. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que c'est bien plus qu'un parcours sonore. C'est-à-dire que là, moi, j'ai plusieurs villages qui sont en train de réhabiliter, de... Tout compte fait, c'est important, notre patrimoine. On est en train de le laisser tomber parce qu'on pense que plus personne s'y intéresse, c'est intéressant. Ça a remis en place aussi du dialogue intergénérationnel. J'ai une gamine à l'école, là, je me suis dit, on a réussi, qui m'a dit, ah ben maintenant, je sais que ma grand-mère, elle a des choses à me raconter.
Oui.
Parce que les anciens sont persuadés que ça n'intéresse pas les enfants, et les enfants sont persuadés que les anciens n'ont rien à leur transmettre. Mmh. Donc ça, ça le rétablit. Ça permet aussi, ce qui est assez intéressant sur les villages, qui sont en périurbain par exemple, qui ont une grosse arrivée de nouveaux habitants, où ça peut créer un clivage entre nouveaux et natifs, de partager une mémoire locale.
Mmh, exactement. Oreille au pluriel, oreille en balade.eu pour l'adresse, il y a page Facebook, oreille en balade également. Merci Sophie.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Entre Rodez et Millau domine le Lévézou, vaste plateau à 900 mètres d'altitude de moyenne, sorte de paradis naturel. Et c'est ici, dans le village de Caplon, qu'est né un réseau de relocalisation de la production paysanne et de la consommation sous le nom des locomotivés. Merci à Christine qui nous a dressé la dénonciation de ces agitateurs. Commencé par Stéphanie qui arrive du Vercors et Vincent Webmaster installé dans ce village de peu d'âme, écrit-elle, mais siège de nombreux projets. Les locomotivés sont des habitants, des associations, des points relais, des agriculteurs bio ou pas, des professionnels du circuit court, des chefs d'entreprise. Deux emplois ont déjà été créés, dont celui d'une animatrice professionnelle spécialisée dans le montage des projets. Partie d'une expérience en 2011, les locomotivés réunissent les acteurs de l'alimentation sur un rayon de 35 km et ils ont procédé à la création de plats cuisinés, à l'ouverture d'un groupement d'achat, à la conception d'une plateforme numérique dans le cadre d'un programme territoire en transition, et ils suivent un essaimage, leur pratique, vers d'autres territoires. Impressionnant pour ce petit village paumé mais magnifique. locaux-motive.fr pour l'adresse. Mathilde Cheuillet, bonjour.
Bonjour.
Mathilde, vous êtes animatrice d'une association présidée par un éleveur, Mathieu Cosse. Un nom logique quand on habite dans l'Aveyron,
oui.
Qui est éleveur de vaches au braque à Bozoul. Et donc, vous animez cette association pour la santé de la terre et du vivant, née en septembre 2015, avec quelques agriculteurs qui avaient décidé de recorriger le tir d'une agriculture productiviste qui dénature les sols et qui ne produit pas nécessairement de la qualité dans nos assiettes.
Exactement. En fait, ça fait à peu près 20 ans que des agriculteurs un petit peu partout en France utilisent des techniques de fertilisation, notamment avec des écosystèmes microbiens, qui ont été mis au point donc par Marcel Mézy, qui est un paysan chercheur aveyronnais de Bozoul également. Et c'est vrai qu'ils se sont regroupés et ce qu'ils ont souhaité mettre en avant, c'est qu'il est possible de produire sans détruire et d'avoir une voie de production agricole qui soit respectueuse de la nature, du vivant et puis de la santé des consommateurs, tout en maintenant des rendements et puis des produits pour les agriculteurs qui sont tout aussi équivalentes.
Alors, j'avais déjà entendu parler de Marcel Mézy, mais c'est vrai qu'on le cite assez peu avec sa technologie, une mésagri, inventeur de ce concept bactériosol, bactériolite. Ça signifie quoi exactement, Mathilde ?
En fait, ce sont des écosystèmes qu'il a cultivés il y a 25 ans, en fait, à partir de plantes sélectionnées. Il a créé des composts qui permettent de produire des bactéries, des champignons, des microalgues qui sont ensuite réensemencés dans les sols et qui vont permettre de réactiver la fertilité des sols qui ont pu être soit appauvris par des années d'engrais chimiques ou d'agriculture un petit peu trop intensive, et donc de redonner de la vie et de la fertilité à ces sols de façon totalement naturelle.
D'ailleurs, Marcel Mézy qui a été invité à la COP20, à Paris, la 22 à Marrakech et la 23 à Bonn.
Tout à fait, oui. Tout à fait, puisque avec l'association, nous sommes aussi en train de travailler pour mettre au point une méthodologie qui sera reconnue avec le futur label bas carbone pour stocker le carbone dans les sols et lutter via l'agriculture et via l'utilisation des technologies Marcel Mézy contre le réchauffement climatique.
Mais ça veut dire qu'on va changer à partir de l'adoption de ces méthodes, adoptées déjà par plus de 10 000 agriculteurs en France, on va modifier complètement les variétés de production.
Alors, pas les variétés, en fait, puisque nous, on travaille avec des agriculteurs qui sont à la fois en conventionnel et à la fois en agriculture biologique. Donc, finalement, on s'adapte à différentes méthodes de production. Par contre, ce qu'on change, c'est les pesticides dans les champs, c'est les intrants chimiques. On permet de limiter tout ça, d'avoir des plantes, du coup, qui poussent en meilleure santé, donc qui ont moins besoin d'être soutenues par des choses plus ou moins bonnes pour la santé, et de produire pour les consommateurs, au final, des produits qui sont de meilleure qualité nutritionnelle et puis moins, du coup, moins riches en pesticides, quoi.
Mmh. Ouais, mais ça change complètement l'économie d'agriculteurs qui, pour les conventionnels, avaient pris des habitudes, on va dire fâcheuses, c'est pas contre eux, c'est qu'ils l'ont fait pour des raisons économiques aussi. Aujourd'hui, on connaît les nombreuses impasses, les déficits, oui, etc. Mais modifier sa production du jour au lendemain, c'est très difficile, voire impossible.
C'est difficile, d'autant plus que les lobbying sont quand même assez puissants. Après, nous, l'investissement qu'ils font sur les technologies Marcel Mézier, en fait, ils le retrouvent sur l'économie derrière qu'ils font sur les engrais chimiques et les pesticides. Et on arrive à avoir des gens qui ont une autonomie d'exploitation et qui ont une marge nette à la fin qui est augmentée. Donc, on permet aux gens de vivre, on va dire, plus décemment, de retrouver une fierté d'être agriculteur et surtout, à la fin, d'avoir un bilan économique qui est amélioré.
Est-ce que les syndicats agricoles vous suivent ?
Certains, ça commence à bouger, mais je pense qu'aujourd'hui, l'association, elle a aussi ce but-là, c'est de faire le lien via les consommateurs, parce que je crois que les premiers à bouger aujourd'hui, c'est les consommateurs. Je pense qu'avec toutes les polémiques qu'on a sur le glyphosate, sur les pesticides et puis les engrais, on a envie sûrement d'évoluer par rapport à ce qu'on trouve dans notre assiette et peut-être d'être prêt à payer un peu plus pour des agriculteurs qui travaillent mieux et puis qui respectent notre environnement et puis la santé des générations futures.
Ouais, mais c'est mieux qu'un frémissement ce qui se passe chez vous. Donc, je disais, l'association née en septembre 2015. Au mois d'octobre dernier, vous organisez une conférence sur une journée du sol à l'assiette à Rodez. Oui. 800 personnes viennent suivre cette conférence.
Ouais, 800 personnes qui sont venues écouter donc Claude Aubert, qui est un ingénieur agronome qui était pionnier de l'agriculture biologique en France. On avait aussi le docteur Laurence Michelutti qui est venu sensibiliser sur les risques entre pesticides et cancer, et puis le docteur Laurent Chevalier qui est médecin nutritionniste à Montpellier. Et ces trois experts, finalement, ont fait le lien qu'entre méthode de production, alimentation et santé, tout est lié. Et on ne peut pas juste dire aujourd'hui faut manger 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, s'ils sont produits avec énormément de pesticides ou beaucoup d'engrais, c'est pas du tout la même valeur nutritionnelle qu'une pomme, par exemple, qui aura été produite de façon beaucoup plus raisonnée sur une agriculture, on va dire, où on aura un respect des sols, un respect de la planète, et derrière, un respect au niveau nutritionnel du consommateur.
Ouais. Prochain événement du sol à l'assiette, normalement, 15 février 2018, à Magnac-Laval.
Tout à fait.
À nos pages d'émission, les liens avec les sites de l'association La Santé pour la Santé de la Terre et du Vivant, ainsi que la page Facebook, et également le lien avec Marcel Mézier. Merci Mathilde.
Merci beaucoup, merci à vous.
Demain, dans l'Aveyron, la jeune entreprise La Fabriculture et ses outils agricoles pour une production respectueuse des sols. Et puis on vous parlera aussi du programme Innovando, BRAC, Évasion Nouvelle Coopérative au cœur du futur parc régional de l'Aubrac. Et puis avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, nous sommes preneurs, alors je relance l'appel, d'initiatives en provenance du Tarn-et-Garonne. Donc amis du Tarn-et-Garonne, n'hésitez pas à nous écrire.